Je comprends aussi la plupart des gens qui ont 50 ans maintenant, ou 40 ans, sont des gens à qui on a donné dans les collectivités des brouées tellement fades, tellement horribles, et surtout, vous voyez, tout ce qui a été passé aux presses purées ou aux mixeurs ou comme ça. Et je crois que ces gens-là sont un peu dégoûtés, ont un ras-le-bol. Pour eux, la soupe, c'est quelque chose de, c'est presque quelque chose qu'on leur a obligé, on les a obligés à manger. Donc c'était une contrainte et ils ont une, ils sont farouchement opposés. Ouais.
Alors quel est le secret en fait de la soupe ?
Mais le secret de la soupe, je pense qu'avec les mêmes légumes et la même eau, on peut donner à la soupe de l'esprit, ou ça peut être quelque chose d'horrible. Mais bon, malheureusement, je suis à me demander, souvent j'y ai pensé, je suis à me demander si ça peut se transmettre par écrit ou comme ça. C'est peut-être quelque chose que l'on, chacun doit ressentir. La façon de tailler de la carotte par rapport à de l'oignon, par rapport à du chou. Je pense que le chou pré-taillé ou cuit de différentes façons, le même chou peut donner des goûts différents. Alors, donc si chaque fois que l'on fait une soupe, il faudrait peut-être qu'on y repense un petit peu, nous les cuisiniers, pour remettre quelques recettes un petit peu qui attireraient les gens. Mais il faut les aider, parce que c'est vrai que ça peut être des légumes bouillis, la soupe.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Chez Alain Dutournier, au Carré des Feuillants, entre autres délits, je me souviens qu'on pouvait se faire préparer une garbure d'anthologie lorsqu'à Paris, les feuilles mortes se ramassaient à la pelle. Mais comme le dit ce chef landais, les soupes, c'est compliqué. Nos souvenirs le savent, il y en a eu beaucoup de désolantes lorsque nous étions enfants et quelques-unes d'inoubliables en grandissant. Que ma petite grand-mère bretonne me pardonne, mais sa soupe de lait avec du pain trempé dedans héritait des temps de misère sur les monts d'Arrée me soulève encore le cœur rien que d'en parler. En revanche, la soupe au pistou dégustée il y a bien longtemps un soir d'été au milieu des vignes, pas loin de chez Montesquieu, avec des légumes et des herbes cueillies dans le potager 2 heures plus tôt, fait partie des meilleurs moments de ma vie. Et cet hiver, lorsque le moral flanchait, ma soupe épinard-coriandre m'a peut-être bien évité les anxiolytiques. Nous voici donc, une fois encore, confinés, alors que la belle saison éclot sur nos marchés. Asperges, petits pois, roquettes sauvages, haillets, menthe, première fraise, bientôt de la rhubarbe, tout cela qui ne demande qu'à être accommodé. Un petit livre vert-pomme, intrigant, mince et élégant, paru chez Herscher, nous propose justement 25 idées de soupe de printemps, faciles à réaliser et dont les seuls intitulés nous mettent déjà l'eau à la bouche. Guy Savoy et son second, Alexis Voisenet, ont mis à profit leur temps libre forcé pour nous offrir ces recettes de saison qui seront suivies de 3 autres livraisons en été, automne et hiver. Une bonne occasion de parler de bonnes choses avec Guy Savoy, que l'on aurait en temps ordinaire peu de chances de coincer 1 heure à un micro, justement au moment du coup de feu dans son restaurant du Quai Conti. Mais depuis des mois, sa centaine de salariés est en chômage technique et lui-même, habitué depuis un demi-siècle à des journées de 15 heures, ronge son frein, ulcéré par ses fermetures totales qu'il estime injustes. Bonsoir Guy Savoy.
Bonsoir, merci de m'accueillir.
Ah, ça fait tellement plaisir de voir un cuisinier en vrai. On se demandait si vous n'étiez pas tous partis dans d'autres pays, en Nouvelle-Zélande, puisque là-bas il paraît qu'on peut revivre. Mais en tout cas, vous revenez avec ce livre merveilleux de soupe, avec des très beaux dessins en plus, qui donnent envie. Ce sont des recettes simples sur 2 pages, il y a peu d'ingrédients et on a tout envie de les faire. Vous avez eu envie de prendre le contre-pied, on attend toujours d'habitude les grands chefs étoilés avec des livres très compliqués, comme des bibles. Et là, c'est un petit livre de printemps. Qu'est-ce qui vous est arrivé pour écrire ce petit livre?
Qu'est-ce qui m'est arrivé? Déjà, bon, là, on dit, enfin, les gourmands disent que la soupe d'artichaut à la truffe, c'est mon plat signature, ce qui est très frustrant pour un cuisinier. J'aimerais bien qu'on parle de tous les autres plats également. Non, mais là, je me suis dit, écoutez, la soupe est un territoire infini. Et ce territoire, en fait, il part de très loin, parce qu'on se souvient tous, l'ami Alain tout à l'heure l'a un peu rappelé, bon, de l'injonction « mange ta soupe », qui était quand même, on peut dire, la soupe punition. Et là, aujourd'hui, au fil des années, des décennies, je crois qu'avec Le talent des cuisinières et des cuisiniers, cette soupe punition, elle est devenue soupe récréation. Hein, et là, j'ai décidé en fait de faire ces soupes de saison, puisque c'est important de suivre la saison. Alain l'a bien rappelé tout à l'heure en disant que c'est vrai que les légumes qui viennent de sortir du jardin ont plus de goût, les fruits également, parce que la singularité de Solive, c'est qu'on a décidé de faire des soupes à la fois salées, mais également sucrées. Et je dirais en prenant soin, je dirais de ce que j'appelle moi l'approche physique du goût, c'est-à-dire en tenant compte toujours des consistances, d'avoir plusieurs consistances dans chaque soupe. Et s'il y en a pas assez dans la soupe, on le fait en accompagnement, soit simplement avec du pain grillé ou de la brioche ou tout ce qu'on veut. Et aussi à travers ces 25 recettes, on a voulu avec Alexis, c'est de que ça serve un peu de socle, de base, à l'imagination des cuisinières ou cuisiniers amateurs qui disent, tiens, que ça les inspire pour faire d'autres choses. Parce que 25 recettes, c'est peu, c'est à la fois peu, beaucoup, mais c'est surtout pour susciter à la fois la curiosité et l'envie d'explorer ce territoire des soupes, qui, je le rappelle, est infini, quoi. On peut y aller tous azimuts, froide, chaude, tiède, avec du croustillant, avec du moelleux, c'est infini, et bien souvent avec très peu d'ingrédients, et puis surtout, elle est prête, enfin, 99% des cas, elle est prête lorsqu'on passe à table. Ça veut dire que la cuisinière ou le cuisinier, il s'installe en même temps que la famille, que les convives, et parce que la soupe est prête, on passe à table.
Ça change tout. D'ailleurs, on va tout de suite écouter, avec la jolie voix de Marie-Pierre Planchon, une première recette de ce joli livre.
Soupe de roquette aux chèvres frais et pollen frais. Il vous faut 500 g de roquette, 200 g de chèvre frais, 50 g de pollen végétal, disponible en épicerie fine, herboristerie ou magasin bio. Sel et poivre, huile d'olive. Mettre la roquette dans une casserole d'eau bouillante salée et la cuire pendant 3 minutes. L'égoutter à la passoire et réserver l'eau de cuisson. Mixer la roquette avec 1 litre d'eau de cuisson et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Dans un saladier, écrasez le chèvre frais avec 2 cuillères à soupe d'huile d'olive et de poivre du moulin. Rectifiez l'assaisonnement à votre goût. Réalisez des quenelles de chèvre entre 2 cuillères à soupe. Versez la soupe de roquette dessus, puis saupoudrez de pollen frais.
Mange la soupe que ça va refroidir.
C'est vrai, ces recettes, c'est incroyable. On a tous l'impression qu'on peut les réussir comme ça, parce que ce sont des bons aliments qu'on trouve en ce moment, surtout la roquette, sur les marchés. Et les textures entre la soupe de la roquette et le chèvre texturé, il manque plus qu'un petit pain grillé.
Un petit pain grillé, voilà. À côté, ouais. Pourquoi pas le tartiner de je sais pas, on peut peut-être mettre de la tapenade, pourquoi pas, peut-être même un tout petit peu de miel, quelques gouttes de miel. Enfin, après, c'est à l'infini, quoi. Mais il faut toujours penser à ces différentes consistances qui sont pour moi l'approche physique du goût, c'est le chaud, le froid, le moelleux, le croustillant et tout ça, qui apporte déjà des sensations bien avant l'interrogation sur le goût organoleptique. Je crois que c'est important d'apporter cet apport physique. C'est le sorbet fraise quand il fait 35 degrés dehors. Le froid vous fait du bien avant le goût de fraise. Ou le chocolat chaud après une journée de ski. C'est avant de vous interroger sur l'intensité du chocolat, le chaud vous fait du bien.
Mais d'ailleurs, Guy Savoie, on a été assez étonnés, en mars dernier, de vous voir à Top Chef. On n'aurait pas pensé, mais bon, c'est vrai que vous aviez du temps libre, donc vous pouviez y aller.
Lorsque j'ai accepté, je ne savais pas encore que j'aurais du temps libre.
Alors, donc, et vous y êtes allé, et vous avez proposé aux candidats, justement, une épreuve de soupe. Ça a dû un peu les épater, ces jeunes gens, quand même.
Non, mais je crois que le cuisinier, où on a la chance d'être en France, où on a une telle diversité, déjà dans les produits et dans la qualité des produits, et après dans les savoir-faire, qui ne s'arrêtent pas qu'à la cuisine, hein, Je voudrais rendre un hommage à tous les artisans des métiers de bouche, que sont les boulangers, les charcutiers, les pâtissiers, les confiseurs, enfin tout ce qui fait la singularité de notre gastronomie, sans oublier les vignerons qui en ce moment malheureusement sont très malheureux. Et c'est tout ça. C'est-à-dire, on doit être capable d'explorer tous ces territoires. Je veux dire, il n'y a pas que dans la gastronomie le foie gras, le homard et tout. Il y a les carottes, il y a le chou. Il y a plus de noblesse dans un chou fraîchement cueilli que dans un homard surgelé. Donc les sensations, le plaisir, voire l'émotion, ça commence aussi par des produits d'une grande simplicité, souvent issus de la cueillette. En ce moment, ceux qui ont la chance de trouver des morilles, puisque les premières morilles poussent, c'est la saison, mais c'est à manger absolument cuite. Hein. Je le rappelle.
Oui,
parce
sinon
que
c'est dangereux.
Parce que crue, elle est dangereuse. Mais c'est tout ça la cuisine, quoi. C'est ces ingrédients qu'on a à portée de main ou à portée de marché, si on veut pas les faire soi-même, son jardin ou sa cueillette, et puis d'être totalement libre pour les faire. Mais il faut les travailler avec un respect. C'est-à-dire que moi, j'ai un respect immense pour la carotte. Et d'ailleurs, quand je vois les images aujourd'hui des vignerons, je me souviens de mon père qui, au printemps, mettait son réveil pour surveiller la température, pour aller éventuellement faire du feu dans le potager pour ne pas sacrifier tout son travail déjà de plusieurs semaines. Et je crois que nous, notre rôle, il est très facile, en fait. Lorsque les produits sont dans la cuisine, il ne peut leur arriver normalement que du bon. Parce qu'il n'y aura pas de tempête, il n'y aura pas de problème de transport. Ils sont là et la magie de la transformation peut s'opérer.
Mais d'ailleurs, Guy Savoy, quand on vous entend parler avec cette passion justement du légume tout frais sorti du potager, on se dit que vous avez été bien élevé par votre père, bien élevé par votre mère. Votre père cultivait ses légumes et ses fruits que votre mère cuisinait dans son auberge. Ouais. Et vous vous êtes retrouvé à 15 ans à prendre sa place au fourneau parce qu'elle était malade. Et que donc, du coup, vous avez eu entre les mains ces légumes qui sentent bon, ces fruits qui ont du goût. Et c'est là où vous avez démarré avec des recettes simples au départ, mais où vous avez pris ce goût justement de transcender ces recettes familiales.
Absolument. Déjà de vénération du produit. Parce que lorsqu'on a un papa jardinier, on mesure l'immense travail. Nous, les plats se font en quelques secondes, quelques minutes. Bon, allez, on va dire, pour certains plats très élaborés, un peu plus d'une heure. Pour un radis, c'est 3 semaines, à condition que la météo soit bonne, qu'il n'y ait pas des vers qui soient venus les manger, c'est tout ça. Donc, quand vous avez vécu ça en direct, et il est vrai, lorsqu'il mettait son réveil pour aller surveiller la température et son jardin, je trouvais ça un peu ridicule, quoi. Et avec le recul, je dis, mais grand respect pour tous ces artisans de la terre et de la mer qui élèvent, qui cultivent, c'est encore une fois, c'est l'ADN de la France. Il n'y a pas un autre pays au monde qui a la possibilité d'avoir autant de produits grâce au talent, au savoir-faire, au don d'observation des femmes et des hommes. Parce que c'est pas par hasard qu'on a déterminé que la volaille de Bresse, c'était une race de volaille qui allait prendre vraiment tous ces galons de meilleures volailles du monde parce qu'elle est élevée sur un territoire bien définie, suffisamment humide pour avoir suffisamment de nutriments dans le sol, qu'elle va pouvoir vivre en liberté, et tout ça. Ça n'existe nulle part ailleurs qu'avec un seul cépage, le chardonnay en Bourgogne, on allait faire, suivant les parcelles de terrain, des vins avec une typicité. C'est pour ça que j'insiste sur à la fois le bon sens, bien sûr, des paysans de tout ce monde de l'artisanat, de la terre et de la mer, l'observation, vous savez, de l'artisan qui, en permanence, se demande comment il peut améliorer son travail. Quand vous pensez que le boulanger fait attention à l'humidité extérieure pour adapter sa recette de pain. Donc, tout ça, c'est unique à la France. Je crois que ces savoir-faire sont vraiment unique chez nous et qu'il nous permette à nous cuisiniers d'essayer d'être d'être performant avec toute cette qualité et cette diversité qui nous entoure.
Alors Guy Savoie, on parlait d'avoir été bien élevé par un père et une mère qui vous ont appris le respect du produit, puis ensuite bien sûr il y a eu toute la carrière. On va s'arrêter un petit instant sur ce que vous avez appris chez les Trois Gros et notamment l'amitié avec Bernard Loiseau.
J'étais apprenti chez Trois Gros, moi, en 68. Et en 71, j'ai fini mon apprentissage. Et 20 ans après, j'ai 3 étoiles. Moi, je suis rentré apprenti. Je suis parti de rien du tout. Et j'avais mis la gueule des frères Trois Gros dessus de mon lit. J'ai dit, un jour, je serai comme eux, quoi. Et puis, j'ai foncé dedans. Et puis, j'ai repris cette maison à Saulieu. Mais personne n'aurait joué un centime sur que je m'en sorte. Que tout le monde me dit, mais il s'en sortira pas. C'est de la folie. J'ai investi une fortune là-dedans. Parce que moi, j'ai une station essence en face de chez moi. Vous voyez, j'ai pas le lac d'Annecy ni Mont-Saint-Michel. Donc, je me suis dit, pour les faire venir, faut quand même un bel ensemble. Alors je me suis endetté jusque-là, j'ai un déremboursement très important jusqu'en l'an 2005, mais c'est pas grave, les gens viennent maintenant. Depuis qu'on a 3 étoiles Michelin, on les a eu le 4 mars, on a fait 60% d'augmentation. C'est quand même impressionnant. Ah oui, oui. Toute la presse s'est mobilisée, dans le monde entier, tous les gens viennent nous soutenir. Et le paradoxe de cette 3e étoile, c'est pas une augmentation de Rolls et de Ferrari dans la porte, c'est des gens plus modestes qui viennent casser la tirelire, qui viennent faire le repas de leur vie, par table de 8 ou 10.
Guy Savoie, vous avez été chez les Trois Gros de 70 à 73. Vous y avez rencontré Bernard Loiseau, qui est devenu votre ami, qui était un peu plus avancé que vous et qui ensuite est parti ouvrir son restaurant où il a eu ses 3 étoiles. Malheureusement, il a craqué, il s'est suicidé en 2003. Et c'est vrai qu'on se dit que vous avez tous les deux grimpé des échelons à force de travail, d'heures passées, d'apprentissage parfois un peu rude. Ensuite, il y a la gloire qui arrive, il y a les étoiles et on sent que c'est toujours tellement fragile. C'est-à-dire qu'il y a une telle pression que parfois, pour juste des problèmes financiers, des problèmes personnels, on est usé.
Alors, bien sûr, ces mots sont très émouvants, hein. Mais je crois qu'il faut, en ce qui concerne Bernard, hein, je veux dire, on était très proches, il y a forcément une maladie à côté en parallèle. Parce que, moi, bien sûr, la pression, mais la pression, tout le monde a la pression. Et je sais pas si c'est après ce drame, mais moi, en tout cas, j'ai décidé d'enlever de mon vocabulaire le mot pression et de le remplacer par le mot passion. Après, c'est à chacun de vivre sa passion comme il entend et de surtout faire, comme l'avait fait parfaitement Bernard, mais faire sa maison à son image. Alors, bien évidemment, on ne peut pas faire complètement l'unanimité. Mais il faut qu'il y ait une cohérence dans la maison. Et moi, ce que je fais régner dans ma maison, enfin, le restaurant, mais que je préfère le mot maison, c'est une atmosphère qui correspond à ma vision de l'interprétation et de la dégustation de la cuisine. Donc, une définition générale de la gourmandise. Donc ça peut se passer que dans un lieu qui soit à la fois esthétique, bon, Bernard le rappelait, il avait une station service en face de chez lui, c'est vrai qu'il en souffrait. Moi aussi j'ai souffert de maisons peut-être beaucoup moins spectaculaires qu'aujourd'hui.
Vous avez démarré dans 35 mètres carrés,
voilà,
oui, rue du Ray.
Absolument. Oui. Et après, bon, rue Troyon aussi, on était en permanence en sur-régime. Donc là, c'est vrai que le lieu,
vous êtes à la Monnaie de Paris,
il est magnifique. Hein, on a la vue sur l'Institut, le Pont des Arts, le Louvre, la Seine, les bouquinistes, le Pont Neuf. Enfin, c'est l'ex-Samaritaine qui va être un confrère. Et c'est vrai que tout ça fait qu'on est dans ce qu'on peut résumer par l'art de vivre à la française et une partie dans l'histoire de France, que je crois que l'art de vivre à la française est indissociable de l'histoire de France et d'avoir la Seine et le Louvre, c'est forcément inspirant. Je crois que Fabienne Verdier, qui est une artiste que j'aime beaucoup, qui avait visité le restaurant avant l'ouverture, quelques jours avant l'ouverture, m'avait dit en sortant, tu verras que dans un lieu comme ça, tu vas explorer des territoires que tu n'imagines pas encore. Et c'est vrai que, bon, je sais pas si elle a eu raison, c'est pas à moi d'en juger, mais le fait de travailler dans des cuisines spacieuses, avec, je crois qu'on a une douzaine de fenêtres dans les cuisines, ce qui est unique, il y en a plus que dans la salle de restaurant. Donc, tout ça, oui, fait qu'on est dans un bien-être et qu'on est, et, et qu'on doit rayer ce mot pression, qui en fait ce sont des ondes négatives, la pression, il faut le remplacer par la passion, et puis essayer de fédérer toute une équipe autour de cette passion. C'est ça aussi l'important, parce que on a dans nos métiers qui sont des métiers plus gestuels que manuels, il faut du monde pour le faire, parce que rien n'est préparé à l'avance. On connaît les règles, on a les gestes techniques, mais on ne sait jamais comment va se passer le déjeuner ou le dîner. C'est comme un match de sport, enfin, proche du rugby.
Vous, c'est le rugby, oui.
Déjà au rugby, j'ai appris que c'est avec des gens très différents qu'on fait, des personnalités très différentes qu'on fait une équipe cohérente. Et on sait, mais après, c'est pas un scénario. On ne sait pas comment ça va se passer. Des jours, ça se passe, il y a un peu plus d'intensité que d'autres, parce que ça ne s'explique pas. Il suffit que 3-4 tables arrivent en même temps, ou peut-être qu'on est un peu moins prêt, et tout ça. Et à chaque fois, ce sont des sensations différentes. Et si en plus on rajoute la pression là-dessus, on peut pas s'en sortir. Il faut la passion qui génère l'enthousiasme et l'envie, et puis de gagner ce match, quoi, entre 13h et 15h, et entre 19h30 et 23h.
April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my heart? Oh, April in Paris, chestnuts in blossom, holiday tables under the trees. April in Paris, this is a feeling no one can ever reprise. I never knew the charm of spring, never met it face to face. Never missed a warm embrace till April in Paris. Whom can I run to? What have you done to my boop-a-doop-a-doop-a-dee-boop-a-beep-a-dip-a-dee-dee?
Thank you.
L'humeur vagabonde sur France Inter.
Soupe de fèves, huile de thym et pastrami séché. Il vous faut 2 kg de fèves, 3 brins de thym, 8 tranches de pastrami disponibles à la coupe dans les charcuteries, 100 g d'huile de colza, sel et poivre.
Chef, vous avez pensé au sel marin pour la mère La Bruyère ? Madame La Bruyère, je comme tout le monde, j'accepte les régimes, mais pas les manies.
Faire cuire à feu doux pendant 10 minutes le thym dans l'huile de colza, puis réserver. Écossez les fèves, puis les mettre à cuire dans une grande casserole d'eau bouillante salée pendant 10 minutes. Égouttez et réservez l'eau de cuisson. Mixez les fèves dans 1 litre d'eau de cuisson avec la moitié d'huile de thym. Séchez au four le pastrami en chiffonnade à 160 degrés pendant 10 minutes, puis le mettre à égoutter sur du papier. Rectifiez l'assaisonnement à votre goût. Versez la soupe dans le bol et assaisonnez d'un filet d'huile de thym. Déposez ensuite le pastrami séché sur la soupe.
Guy Savoy, une autre recette de votre livre de soupe de printemps. Je me demandais, est-ce que vous, on sait bien que dans le restaurant, il y a votre plat signature, c'est la soupe d'artichaut aux truffes avec une brioche avec une duxelle de champignons et des truffes. Est-ce que vous, vous en faites pour le plaisir chez vous des soupes?
Mais bien sûr, je crois que... Bien sûr, et puis vous savez, dans cette période, dans cette rude période, je serais tenté de dire, heureusement qu'il y a la cuisine. Quoi. C'est une manière aussi de, ben, d'être dans ce fameux concret, moi, qui me fait vibrer au quotidien. Quoi. Je veux dire, c'est évident que je me rends compte aujourd'hui que je ne peux pas me passer de ces produits qui arrivent le matin, ou que je vais en ce moment chercher sur le marché. Après cette transformation que j'appelle magique, hein, on fait passer les produits de l'état de comestibilité à l'état de plaisir, cette ode à la gourmandise et cette intimité ensuite. C'est-à-dire que soit à la maison, soit au restaurant, de l'autre côté de la cloison, il y a des convives qui vont déguster ce qu'on vient de préparer. Donc là, je parle vraiment d'intimité, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on ingère, c'est pas un geste banal, c'est quelque chose de fort dans les relations. C'est pour ça qu'on, si on transforme, nous, ces produits, encore une fois que j'appelle la magie de la transformation en cuisine, on peut parler aussi de la magie de transformation des convives, qui, au fil de l'avancée du déjeuner ou du dîner, on sent cette atmosphère qui devient de plus en plus animée dans la salle dans la salle à manger, et d'être comme ça aussi porté par par ce concret également, de voir les gens, les personnes heureuses autour des tables. Alors je dis, mais tout ça dans un espèce de théâtre avec unité de temps, de lieu et d'action, c'est addictif, quoi. On ne peut pas s'en passer.
Vous le dites, c'est addictif, Guy Savoy. Alors évidemment, je ne peux pas ne pas vous poser la question, même si je sais que c'est une souffrance. Depuis janvier, c'est fermé. Et il y en avait eu d'autres mois de fermeture avant.
Novembre.
J'imagine que pour vous tous, alors vous-même personnellement, mais toute votre brigade, tous vos employés, il y en a 65 à la Monnaie.
Absolument,
et
oui.
Donc,
oui, il y a des apprentis et des stagiaires.
Voilà.
Et là, je voudrais souligner, ce sont nos étudiants à nous. Et ces étudiants-là ne pourront pas apprendre devant un écran d'ordinateur. C'est impossible. Le geste, ça se transmet, encore une fois, concrètement. C'est-à-dire que c'est avec ces étudiants-là c'est devant ces étudiants qu'on fait ces gestes, qu'on leur apprend. Là encore une fois, on est dans l'hyper concret.
Mais du coup, alors avec tous ces mois d'inactivité, alors je ne vais même pas vous poser de questions sur l'état du moral des troupes, mais ne serait-ce qu'en l'entretien du savoir-faire. Est-ce que de temps en temps, régulièrement, vous vous retrouvez tous ensemble pour faire la cuisine?
Alors là, oui, c'est vrai qu'il y a une quinzaine de jours, j'ai décidé de remettre la cuisine pendant trois matinées, de remettre la cuisine en marche avec les principaux, c'est-à-dire que les sous-chefs et les commis et chefs de partie qui étaient disponibles pendant 3 jours. Alors ça a été surtout de la conversation, quoi. On a beaucoup échangé. On a beaucoup dit que bon, ben ça allait forcément reprendre un jour et qu'il faudra qu'on soit très, ben, à la fois très tonique, mais dans nos métiers on l'est forcément. Et en fait, il n'y a pas eu de naissance entre guillemets de plat. Parce que je crois que pour ça, il faut vraiment qu'on soit dans le, il faut qu'on soit dans le, dans l'activité normale, et c'est comme ça qu'on avance, et c'est comme ça qu'on a envie, et c'est le défi, c'est-à-dire de surprendre un habitué du restaurant. Et là, on est pratiquement acculé à faire quelque chose de nouveau pour justement qu'il ait d'autres sensations sur d'autres plats. Et c'est comme ça qu'on procède. Bon, mais cette remise en route pendant 3 jours a été très, très, très bénéfique. Déjà, ils ont vu que j'avais pas du tout envie de lâcher prise. Au contraire, je crois que j'ai encore plus envie d'en découdre lorsqu'on va rouvrir. Et puis les équipes également sont dans cet esprit-là. Vous savez, les gens qui s'orientent vers nos métiers, c'est qu'ils ont cette fameuse passion qui génère cet enthousiasme. Et ça ne s'éteint pas. Je me suis aperçu que ça ne s'éteignait pas. Déjà, tous chez eux, ils cuisinent, bien évidemment. Donc, mais ils ont envie de reprendre, ils ont envie de revivre ce rythme. C'est un émerveillement. Vous savez, un restaurant, le matin, dès 8h30, lorsque les produits arrivent, c'est un émerveillement total. Vous n'avez pas besoin d'aller sur le marché. Le marché, il arrive à nous, hein. Et on l'a là. On a tous les produits devant nous, hein. Et c'est quelque chose de formidable. Et déjà se demander comment on va traiter tel ou tel produit, et puis de mettre cette machine en route, et puis d'être en permanence, et bien les mains dans le concret, les yeux dans le concret, le palais dans le concret, parce qu'on goûte ce qu'on fait. Vous imaginez, moi je dis l'ustensile le plus important en cuisine, c'est la cuillère, parce qu'on doit en fait tout goûter. C'est là qu'on a les sensations, c'est là qu'on est. Alors on sait bien sûr, hein, je dirais de manière innée, au bout de quelques années, on sait la quantité de sel, de poivre, ou quelle herbe va fonctionner, tout ça, mais c'est toujours bien, comme on est justement dans le concret. Le concret, c'est aussi de prendre cette cuillère et de goûter.
Eh ben là, on va goûter avec les oreilles.
Allez, à la soupe. Au revoir tous.
Bouillon de rose, rhubarbe confite. Il vous faut 20 g de boutons de rose séchés en épicerie fine ou herboristerie, 4 tiges de rhubarbe, 260 g de sucre. Faire infuser les boutons de rose dans 1 litre d'eau à feu doux pendant 5 minutes, puis laisser infuser hors du feu pendant 15 minutes. Filtrer le bouillon à la passoire fine. Réaliser le sirop en portant à ébullition le sucre dans 200 g d'eau. Une fois l'ébullition atteinte, retirer du feu, le sirop est prêt. Éplucher, puis tailler la rhubarbe en petits tronçons. Les déposer dans un plat, verser le sirop dessus, recouvrir le plat d'aluminium et cuire au four à 160 degrés pendant 45 minutes. Déposer soigneusement la rhubarbe dans le fond d'une assiette ou d'un bol, puis verser l'infusion au dernier moment.
Marie, va coucher Robert. Moi, je vais sortir la soupe du feu.
Cette soupe se déguste chaude.
C'est de la pure poésie, dit sa voix.
Non, mais oui, c'est vrai que ça me donne faim.
Oui, c'est un bonheur.
C'est l'horaire aussi. Hein.
Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'aussi, ça fait partie des choses qui, depuis un an, nous rattachent à notre vie, à ce que nous sommes, c'est-à-dire cuisiner et le faire goûter aux gens qu'on aime. Au fond, il n'y a pas de meilleure définition du bonheur dans la vie.
Absolument, je veux dire que il y a un rôle, alors quand c'est au niveau de la famille, des amis, mais alors ce sont des gens qui ne se connaissent pas, il y a un vrai rôle social, quoi, de la table, en fait, hein, parce que la table, ça, bien sûr, ça inclut la cuisine, la compagnie, la vaisselle, le lieu, enfin, tous les paramètres qui font que l'on passe un bon moment. Et encore une fois, ce moment, je veux dire, il est intime parce qu'il passe par la dégustation. Et ça, c'est très important. Très important. Tous les sens, là, sont en éveil. On a les yeux, on a, pour certains plats, les oreilles, le toucher, moi. Prendre le pain dans la main, et puis quand il a cette croûte bien, bien dure, et que le son que l'on fait lorsqu'on prend ce petit morceau de pain, et tout ça, c'est tous les sens sont mis en éveil, et c'est un moment de grâce, voilà.
Eh bien oui, on espère bien que ça va, que ça puisse réouvrir bientôt. Alors, vous me disiez tout à l'heure que vous ne pensiez même pas que ça serait possible en juin, mais plutôt en septembre. Vous pariez plutôt là-dessus ?
Je ne sais pas, vous savez, je suis pas parieur, je suis dans le concret, donc le pari, c'est pas mon truc. Mais c'est de dire aujourd'hui, oui, je sais pas comment va se passer la campagne de vaccination. J'espère qu'en région où ils ont des espaces, où les terrasses, j'espère qu'avant l'été, ce sera possible, hein, que les Français puissent bouger avec des restaurants sur le territoire français. Dans les grandes villes comme Paris, d'ailleurs, moi, je m'interroge, là, c'est, pour cet été, si les Français ont déserté la capitale et si les touristes ne sont pas là, oui, qu'est-ce qui va se passer, hein ? Bien sûr, moi, si on me dit d'ouvrir le 20 juin, bien sûr que je vais ouvrir et qu'on va remettre toute la machine en route. Mais bien évidemment, on attend ça avec impatience. Et quand je dis on attend ça, c'est tout le monde, quoi. C'est le petit café en bas de chez soi où on va prendre son café, le bistrot de quartier où on va prendre un repas le soir parce qu'on n'a pas envie de cuisiner, et puis tous les restaurants qui sont encore une fois des lieux de vie. Et là, si le premier confinement s'est attaqué à l'art de vivre, là encore une fois, je le répète, on s'est attaqué à l'âme, quoi. Quand on n'avait plus la possibilité d'aller au concert, au théâtre, au cinéma et d'aller au restaurant, c'est évidemment l'âme qui est attaquée. Et là, aujourd'hui, c'est très grave, quoi.
Mais vous avez un restaurant qui a réouvert, c'est à Las Vegas.
Absolument. Las Vegas, en fait, durant toute cette période, n'a été fermé que 3 mois. Hein. Et là, bon, ils ont ouvert et puis, bon, on sent. Mais ce qu'on a senti chez nous lorsqu'on a rouvert en juin dernier, c'est que la volonté des convives, bien sûr, de venir se faire plaisir, mais d'être là aussi pour soutenir. Hein. Je sais, mon directeur là-bas m'a dit que les mêmes convives qui parfois faisaient attention sur la carte des vins, là, ils vont un peu plus haut avec cette volonté, mais affirmée, de nous aider, quoi, de nous soutenir et de nous aider. Je suis sûr qu'à Paris, ce sera la même chose. Maintenant, on attend. Et surtout que nous sommes des lieux, en fait. Des lieux comme tous les lieux où il y a, j'allais dire, un taulier. Il est obligé, ce taulier, de prendre les mesures, déjà pour se protéger lui, pour protéger ses collaborateurs et protéger ses convives ou ses clients. Donc, je ne sais pas pourquoi on ne nous fait pas plus confiance, quoi.
Oui, vous me faisiez remarquer tout à l'heure qu'aucun de vos employés, de vos 65 employés, n'a été contaminé. Ça montre bien que...
Il y a une part de chance, ouais. Et... je n'occulte surtout pas tous les drames, les douleurs qu'il y a autour de cette crise sanitaire.
En tout cas, pour parler un peu de bonheur et se faire du bien, j'invite à se reporter à ce petit livre de soupe de printemps que vous avez coécrit avec Alexis Voisenet. Et on attendra avec impatience les soupes d'été, d'automne.
Soupes d'été, elles sont prêtes.
Ah, et ben voilà.
Là, on est sur l'automne.
Voilà.
Donc, les soupes d'été sont prêtes. Et là, il y a des surprises, qu'il y aura même des granités ou même du sorbet, parce qu'encore une fois, j'ai voulu que cette soupe, elle soit salée, sucrée, chaude, tiède, froide, glacée.
Merci à vous, Guy Savoie. C'était un plaisir. Au revoir.